La longueur d'onde historique, c'est celle des... qui est propre, je crois, alors à la... au français que nous employons, parce que c'est dans ce registre qu'on se déplace en ce moment même. C'est l'incroyable richesse qu'il y a dans les mémoires, dans les mémoires qui s'appellent, pas par hasard comme ça, écrits en français. Alors la mémoire des mémoires, ou le mémoire des mémoires, c'est bien entendu Saint-Simon, que vous voyez, réinterprété dans la machine proustienne par la suite. Ça, c'est très intéressant à suivre. Avec une différence, c'est que là où Proust est dans la situation de rechercher une légitimité perdue, Saint-Simon, lui, voit la scène comme s'il n'en avait jamais douté. Il y a une certitude chez Saint-Simon, un tremblement constant de rage et de comique aussi, de légitimité sûre d'elle-même, que vous n'avez absolument pas chez Proust, ce qui différencie en effet le début du XVIIIe siècle du début du XXe. Qu'est-ce que c'est qu'écrire en état de légitimité? Voilà, c'est ça, c'est une grosse question.
Un écrivain, la langue nationale et la culture nationale est son élément, même s'il les transforme, et on a donné quelques exemples de transformation, mais il en dépend.
Julia Kristeva.
Je me souviens, dans notre période maoïste, on a beaucoup lu des textes concernant l'aventure du maoïsme. J'étais très frappée par une des premières biographies, je crois, de Mao, qui a été faite par une journaliste américaine, elle s'appelle Agnès Medley, et qui racontait les deux grandes impressions que lui avait fait Mao. D'une part, c'était l'extrême douceur de son geste quand il l'a aidé à traverser un ruisseau, ce qui ne colle pas du tout avec l'image qu'on se fait de Mao, et qui est vraie, elle aussi, d'un politicien souvent tyrannique, la tyrannie pouvant aller jusqu'au crime. Enfin, il faut croire que les individus sont ambigus et complexes. Et puis, un aveu que Mao lui avait fait, qui était sa réticence à parler une langue étrangère, et il justifiait ceci par le fait qu'il était écrivain chinois et que par conséquent il était en quelque sorte rivé à sa langue nationale. Avec Soler, ces choses sont beaucoup plus complexes parce qu'il parle très bien l'espagnol, par exemple. Il se sent très à l'aise dans la culture latine, pas seulement française, dans toute l'Europe du Sud et en particulier en Italie. Par instinct, je crois qu'il est assez réservé à l'égard de l'anglais et du protestantisme, quoique admirateur de Shakespeare, de Joyce ou de Faulkner. Mais en fait, sa préoccupation, et depuis femme, je crois que c'est très net, c'est de savoir, si je peux résumer et schématiser les choses ainsi, de savoir que veut dire aujourd'hui être romancier français. Je crois que c'est une question politique. Et si elle avait été posée avec force, si on lui avait répondu sans culpabilité, j'oserais dire qu'on verrait moins de mouvements xénophobes qui se déploient aujourd'hui avec insistance, chacun le sait, mouvements xénophobes et racistes, qui touchent, paraît-il, presque 20% de la population, et qui découlent, entre autres, je ne vais pas faire toutes les causes de ce racisme, de cette xénophobie aujourd'hui, mais qui découle peut-être, entre autres, d'un certain sentiment d'humiliation culturelle qu'ont les Français. Et contre lequel sentiment, je crois que l'écriture récente de Soler veut réagir aussi. Donc je dis, faites attention, cette humiliation culturelle peut avoir des conséquences graves. Et je le dis, encore une fois, avec une certaine distance, puisque je ne suis pas partie prenante, étant donné moi-même que je suis moi-même étrangère, je ne suis pas partie prenante de ce conflit. Je me sens encore une fois plus à l'aise dans le cosmopolitisme, d'une part, et d'autre part, quant aux familles, je connais assez bien combien leur tolérance et leur gentillesse peut être factice, et combien le moindre problème économique ou d'héritage peut faire éclater le consensus. Ceci dit, encore une fois, j'insiste sur cette importance qui est culturelle et politique aujourd'hui de redonner confiance aux Français dans leur culture. Donc, écrivain français, Solers l'est dans ses textes d'avant-garde déjà. Par exemple, la concision, la clarté, le dépouillement font penser au style de Montaigne ou de Montesquieu. Mais cette veine française est encore plus nette dans les romans de Puy Femme. Par exemple, le personnage de la femme déjà, qui domine la narration dans Femme, qui est à la fois l'objet de narration, mais aussi un sujet important. C'est quelqu'un qui s'affirme à travers l'érotisme, à travers la participation à la vie politique, etc. La femme apparaît comme détentrice d'un pouvoir certes douteux et qui suscite souvent l'ironie du narrateur, mais combien enviable, combien charmant, combien civilisateur. Et là, on peut voir une continuité de l'esprit du XVIIIe siècle. Ou alors, une autre manière de renouer avec cette culture française, c'est l'allusion à l'histoire récente de la famille française, qu'on voit dans le portrait du joueur, par exemple. Les drames de la résistance, les drames de la Deuxième Guerre mondiale, toutes les participations, par exemple, de la bourgeoisie industrielle française au gaullisme, ou au contraire, la compromission d'autres parties de la population, ou d'autres franges de cette même bourgeoisie. Ce sentiment d'être en perte de vitesse dans le monde, dont on parle beaucoup aujourd'hui, tout en étant très fidèle aux valeurs inimitables d'une culture dont on est fier, le plaisir, le divertissement, la légèreté, l'ironie, le charme, la perversion qui n'oublie jamais qu'elle se traduit toujours dans une certaine rhétorique et qui est peut-être essentiellement rhétorique. Donc les Français modernes ont parfois honte de tout cela. Et il fallait que quelqu'un réhabilite ces valeurs par Sade, par Rodin ou par Fragonard interposé. Et c'est un peu, me semble-t-il, le projet ou un des projets récents de l'écriture de Solers.